Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode particulier puisque c'est une des trois parties d'une série que je réalise dans mon interview de Pauline Bourgoin. Pauline Bourgoin est ce qu'on appelle un parent protecteur, plus précisément une mère protectrice, c'est-à-dire qu'elle prend sur elle le fait de protéger son enfant de violence en attendant que la justice fasse son travail. Et elle n'est pas la seule, il y a plusieurs parents protecteurs, surtout bien entendu des mères protectrices. Et c'est important, je pense, aussi de donner de la visibilité à ces récits. L'histoire de Pauline n'est pas facile. Voilà, l'histoire de Pauline est même très difficile. C'est pour ça que je vous invite, attention, si jamais des sujets que nous allons aborder comme les violences sexistes et sexuelles, l'inceste ou bien même les violences institutionnelles peuvent vous heurter, je vous invite à faire une écoute très au calme, à la faire dans un moment où vous vous sentez bien, ou tout simplement à la différer ou à ne pas la réaliser. Voilà, protégez-vous avant tout. Nous allons, au travers de mes questions, essayer de comprendre comment est-ce que les mécanismes d'emprise et de manipulation peuvent se mettre en place, comment est-ce que ces violences peuvent arriver sans que forcément on prenne la fuite tout de suite, sans comprendre qu'on est en danger, et comment est-ce qu'on peut continuer en fait de rester dans cette situation-là. Nous allons aussi bien sûr voir au travers de ces trois épisodes comment on peut, mine de rien, réussir à s'en sortir, réussir à trouver des leviers à l'extérieur, en soi, pour réussir à s'en sortir, et aussi des nouvelles difficultés auxquelles il faudra faire face. Nous avons laissé dans cet épisode aussi des clés pour comprendre, des clés pour agir, des clés pour observer, des clés pour aider, et j'espère que cela aidera. Je dis un grand merci à Pauline pour son temps et sa confiance sur ce récit qui est pour moi un récit très important que je vais vous laisser découvrir tout de suite. Je vous retrouve pour cette deuxième partie avec Pauline Bourgoin et la suite de notre discussion poignante. Dans cette partie, nous plongerons au cœur du vécu douloureux de Pauline, de cette relation qui est tumultueuse, toxique et violente, sous l'emprise d'un ex-compagnon manipulateur. Pauline a dû affronter mensonges, agressions et fausses accusations. Son courage la pousse tout de même à déposer plainte pour violence conjugale, mais le chemin vers la justice est hérissé d'obstacles, notamment lorsqu'elle doit récuser son avocate et reporter l'audience pour défendre ses droits. Nous allons explorer ensemble les réactions traumatiques de sa petite fille, l'accusation infondée d'enlèvement par le père et les conséquences d'une aliénation parentale, dont le concept est souvent utilisé pour discréditer les mères et dont elle sera victime. Nous allons décortiquer ensemble comment les termes conflit et violence sont employés dans le contexte de la relation parentale et nous mettrons l'accent sur l'importance de reconnaître les violences conjugales, intrafamiliales, maintenant même devons-nous dire, impliquant les enfants. Préparez-vous pour la suite de cette conversation qui a été très intense pour elle comme pour moi et qui met en lumière la dure réalité des manipulations et de la violence dans les relations personnelles à travers le prisme de l'expérience de Pauline. Je vous souhaite une bonne écoute. Et qu'est-ce qui se passe alors après ?
Après, je rencontre quelqu'un. Un an après, je refais ma vie. Et là, il vrille complètement. Et il me dit, tu le quittes. Bon, au début, il m'alerte, il me dit qu'il a très mauvaise réputation, il s'est renseigné, il a appelé son ex, etc. Il m'a dit « Attention, c'est un homme violent, red flag, etc. » Voilà, je lui ai un peu ri au nez.
Il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est l'audace, le culot de ces personnes-là, quoi. C'est fou.
Mais comme on s'était jamais dit qu'il était violent, c'était toujours c'était que des non-dits entre lui et moi et un dérapage ponctuel. Il n'y avait pas de reconnaissance... Enfin, on le savait entre lui et moi, mais on se le disait pas. On disait pas que j'étais victime de violences conjugales.
C'est ça, d'où l'importance de bien nommer les choses. C'était pas un dérapage, c'était une gifle. Et encore une gifle, ça, on peut aussi appeler ça un coup au visage. Je dis ça pour l'auditoire, hein, bien sûr. N'hésitez pas à bien nommer les choses. Quand quelqu'un vous raconte ce genre de ça, n'hésitez pas à bien nommer les choses, ça peut déclencher des prises de conscience. Donc il te dit, attention, c'est un mec violent. Okay.
Oui, il a enquêté sur lui et il m'a même fait. Il a même appelé son ex et il me l'a passé au téléphone. Et il a retrouvé aussi une autre ex. Bon, voilà. Moi, encore une fois, j'avais des red flags devant moi avec un nouvel homme, mais j'y vais encore parce que une fois, c'était pas suffisant. Il a fallu vraiment que j'aie la leçon jusqu'au bout pour avoir l'électrochoc. Et avec ce nouvel homme, j'ai remis des lunettes roses. Et au début, tout est idyllique, mais ça reste beaucoup plus longtemps avec lui. Parce que lui, comme il a déjà une première plainte de son ex pour violence conjugale...
Et tu le sais à ce moment-là ?
Pour la plainte, il me l'a dit. Mais il était victime d'une perverse, d'une manipulatrice, etc. Et il m'a fait croire, il m'a dit, toi et moi, on est dans la même situation. Toi avec le père de ta fille, et du coup, on se comprenait.
Donc là, tu te retrouves dans une relation avec un mec tout aussi pervers et violent, peut-être plus, enfin tu vas nous dire, et un ex qui est le père de ta fille, qui est violent et qui en plus veut...
Qui veut que je le quitte.
Qui veut que toi, tu le quittes, ce gars. Ok.
Et il me dit, mais non, mais en plus, il gère une société dans le même domaine d'activité que lui. Il me dit, tu prends qui tu veux, mais pas un concurrent. Il y avait une question d'ego. Et du coup, ça fonctionne pas. Je lui dis, non, mais c'est bon, il m'a tout expliqué, je le crois. Il me dit, ok, si tu veux pas le quitter, tu me passes ma fille une semaine sur deux. Là, c'est par SMS en plus. Je lui dis, mais en fait, notre fille n'est pas un objet, marchandage. Pense à ton fils qui a souffert du marchandage et des conflits entre sa mère et toi. Notre fille, si tu veux t'en occuper, pas de souci. Moi, au contraire, je veux qu'elle ait un papa qui s'en occupe. Mais on va faire en fonction de ses besoins, elle. Elle est bébé, elle te connaît pas. Elle l'a vu quelques fois, elle a encore allaité, on va y aller piano. Et donc, là, il commence à la voir un week-end sur deux.
C'est aussi une opportunité pour ta fille.
Oui, elle va avoir un papa qui va se soucier pour elle. Et puis moi, je vais avoir aussi un peu de temps pour moi, parce que mine de rien, depuis la naissance, j'étais H24 avec deux travails à la fois, un bébé dans une maison en travaux. Enfin voilà, je vivais un moment lourd et j'avais aussi besoin de temps pour moi, donc ça m'allait. Et en fait, elle revient du premier week-end, elle pleure beaucoup. Elle était bébé, elle avait un an, elle s'exprimait pas encore. Il y avait les dents qui sortaient. Je me suis rien dit, en fait. Je me suis pas dit, c'est à cause du papa. Elle pleure. Comme ça pouvait arriver avant qu'il apprenne. Sauf que ça fait la même chose au week-end, deux semaines après. Et encore. Le huitième week-end, elle pleure, mais 6 heures consécutives dans mes bras. Elle hurle. Là, je me dis, il y a un truc qui va pas, c'est sûr. C'est lié à son père, parce que elle va chez la nourrice depuis ses 3 mois et demi. Elle n'a aucun souci à se séparer de moi. Ça va très bien, je la récupère avec le sourire. C'était idéal. Quand c'est avec son père, elle veut pas y aller. Elle s'accroche à moi et quand elle rentre, elle pleure. Donc là, je veux pas le brusquer. J'ai un peu peur de lui. Je lui dis, je l'accuse de rien. Je lui dis juste... Peut-être que c'est la séparation avec sa maman, c'est trop brutal de te séparer aussi la nuit alors qu'elle est encore allaitée. Je lui propose qu'il la prenne toujours un week-end sur deux, mais sans les nuitées, qu'il me la ramène le soir, et qu'on y aille progressivement, et qu'on réinstaure les nuitées progressivement plus tard, une fois qu'elle est plus allaitée. Je lui propose un plan même de sevrage de l'allaitement pour qu'elle soit sevrée à ses 2 ans, et qu'il puisse commencer à la reprendre comme ça. Ok, au début. À ce moment-là, donc mon autre relation progresse. Mon compagnon me pousse aussi à avoir un cadre, parce que c'est vrai qu'il respecte jamais les horaires. On se donne rendez-vous 3 heures après, il est toujours pas là, son téléphone est éteint. Il contribue en rien financièrement pour sa fille. On me dit, à un moment, il faut que tu te fasses respecter. Donc moi, je lui dis, je te propose qu'on fasse une convention parentale et qu'on la fasse homologuer par la justice. On fait les choses entre nous, hein. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de souci. Il est d'accord. On la rédige ensemble. Enfin, je fais un projet par une avocate, je lui soumets, il me dit ça me va pas, je recorrige. Et là, on a la version finale sur laquelle on s'est mis d'accord tous les deux. Et j'ai fait l'erreur de lui annoncer, avant la signature de ce document-là, le matin même, je lui annonce que ça fait 1 an et demi depuis la séparation que je travaille à développer la société. Là, elle a acquis une maturité, j'ai recruté le personnel, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir sereinement et qu'elle puisse perdurer. Ce qui a fait qu'elle perdure aujourd'hui, tout va très bien. Enfin, de l'extérieur, je ne sais pas comment ça va, mais en tout cas, elle existe toujours, elle continue de tourner et d'avoir un volume important. Et je lui dis, maintenant, je pars de la société, je te vends mes parts. Il me dit, non, déjà, tu me les donnes, tu me vends rien du tout. Et il se met en colère d'un coup, il pousse des cris et il reprend la convention parentale sur laquelle on venait de se mettre d'accord, on était OK, hein. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais tu veux plus que je voie ma fille? Mais tu veux priver un père de son enfant? Et il fait un scandale au bureau sur la garde de l'enfant, alors qu'il n'y avait pas de souci. Et il commence à me faire peur, à m'intimider. Et je pars, je veux partir. Il me poursuit dans la rue, il me hurle dessus, il me menace de mort. En fait, là, il a vrillé parce qu'il il m'avait encore dans sa société, il savait que j'étais encore sous emprise et il voyait que le dernier élément qu'il avait de moi, il était en train de le perdre. Il vrille totalement, je monte vite dans la voiture, je me souviens, j'étais toute tremblante, je fais ma marche arrière vite pour fuir chez moi. Et il court après le véhicule, il saute sur le capot. Ben, en fait, je suis en panique totale. Je mets un coup de volant pour le faire tomber, ça marche pas. Un deuxième, ça marche pas. Bon, ben, je vais pas le ramener chez moi. Donc, je m'arrête. Je me souviens, je commence à filmer pour qu'il se calme, en fait, parce qu'il va pas faire grand-chose devant une caméra. Il m'incendie, il fait le tour du véhicule. Ma fenêtre est entrouverte comme ça. Il passe sa main, il m'attrape la main. Et là, il m'éclate la main contre la vitre jusqu'à ce que je lâche mon téléphone. Moi, j'ai la main en sang. Il me vole mon téléphone. Et ensuite, il y a des cris, etc. Et il y a la police qui arrive. La police me dit d'aller me faire soigner à l'hôpital et ensuite d'aller déposer plainte. Et donc, je vais à l'hôpital. J'ai un certificat d'identité qui m'est délivré. J'ai mon nom qui tombe. Et ensuite, j'ai pas le courage de déposer plainte. Et je fais juste une main courante. Le policier insiste et je dis non, j'ai trop peur. Et c'est ce jour-là que j'ai signé un peu le début de la vendetta du père de ma fille. C'est le jour où je l'annonce que je quitte l'entreprise aussi.
Oui, le jour où tu coupes ce dernier lien très très concret et matériel qu'il avait pour te tenir, quoi.
Ouais. Mais là, en fait, ce jour-là, je comprends a posteriori qu'il a décidé de servir de notre fille pour continuer de m'atteindre. Et ça, je le comprends qu'un an plus tard, le jour de l'audience devant le juge aux affaires familiales, je découvre son dossier de faux témoignage à mon encontre. Ou de vrais témoignages, mais d'une réalité racontée par le père de ma fille. Et je découvre que, par exemple, son ami que j'avais recruté en tant qu'assistante de gestion avait témoigné d'un conflit entre le père de ma fille et moi, et qu'elle l'avait retrouvé devant le bureau sur mon capot. Et derrière, je suis accusée d'une tentative d'homicide. Et donc, plus tard, je découvre qu'à partir du jour où je lui annonce que je quitte l'entreprise, il récolte des témoignages. Doucement mais sûrement. Moi, je suis pas au courant qu'il prépare un dossier, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de question de juge entre nous. Mais donc, le premier témoignage date de ce jour-là, en mars 2021. Ensuite, il en a en juin, juillet, voilà. Il commence à faire un dossier, et dedans, je suis décrite comme une personne instable, violente, maltraitante, etc. Moi, à ce moment-là, on venait de convenir 2 mois plus tôt qu'on arrêtait les nuitées parce que ma fille pleurait toutes les larmes de son corps à chaque fois qu'elle rentrait. Donc, comme on arrête les nuitées, ça va mieux, mais elle est toujours pas bien quand elle va chez son père. Enfin, quand elle rentre de chez son père. Et elle est réticente à y aller. Alors que quand elle voit, par exemple, le mari de la nounou, elle lui court dans les bras. Quand elle voit son père, elle s'agrippe. Et là, au bout de quelques mois, donc il a déjà commencé à récolter des témoignages, il fait un peu n'importe quoi. Il la prend quand il veut, comme il veut. Il me dit, si t'es pas contente, t'as qu'à saisir le juge. Il la prend, il la force à dormir chez lui. Il lui dit, en fait, je t'annonce que tu la reverras pas. T'iras la récupérer demain chez la nounou. Et ma fille se retrouvait dans un état désastreux. Je me souviens que j'ai le droit de dire au revoir à ma fille par visio, de lui annoncer qu'on finalement on se revoit pas. Elle en pleure. Et le lendemain, la nounou m'envoie des messages en me disant que ma fille est pas bien, qu'elle veut plus jouer avec les autres enfants, qu'elle reste dans les bras, qu'elle est livide. Je me souviens de partir plutôt du travail pour aller la voir. Donc il commence à lui faire vivre des moments comme ça et je le supplie d'arrêter de penser à l'intérêt de notre fille. Et il me dit, j'ai des droits, il faut les respecter, je suis son père. Je dois la voir autant que toi. Et il me dit, si t'es pas contente, tu saisis le juge. Si t'es pas contente, tu saisis le juge, plusieurs fois. Je finis par saisir le juge. Et bien sûr, devant le juge, il dira, vous voyez, elle est dans le conflit, elle saisit le juge. Et on arrive au mois de janvier 2022, qui a été un tournant dans la vie de ma fille et moi. C'est là que tout se concentre. Il y a l'audience qui est prévue. Bon, il demande un renvoi. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Il a eu les pièces 12 jours avant l'audience, mais il n'a pas eu le temps de se préparer. Et au même moment, j'ai la crèche qui m'alerte de possibles suspicions de violences sexuelles. En fait, depuis le retour du week-end, à chaque change pour des selles, donc change allongée, parce que pour les urines, elle est déjà assez autonome, elle fait pas mal seule et debout. Mais quand elle est allongée et qu'elle subit les gestes, disons, elle se met à trembler. Elle s'agrippe au bras de l'assistante maternelle, elle supplie ce qu'on arrête et elle est tétanisée. Elles m'ont dit, on n'a jamais vu ça. C'est pas un enfant qui est réticent au change, c'est vraiment, il y a un trauma. Et ça se produit avec chacune des assistantes maternelles qui la change chaque jour depuis le retour du week-end. Et là, elle me dit, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, avant de me le dire, elles en parlent avec notre fille et elle la questionne. Donc, elle dit qu'elle a peur. Et quand on lui demande si c'est de quelqu'un, elle dit oui. Elle demande si c'est quelqu'un qui lui change la couche, elle dit oui. Donc, elle pointe chacune des assistantes maternelles, c'en est aucune d'elles. Et elle lui demande, bah, dis-nous qui c'est. Et là, ma fille se met à pleurer, elle se ferme. Impossible de lui faire dire qui c'est. Donc, à partir de là, la crèche me demande, moi, de questionner ma fille. Parce que j'ai un lien fort avec elle, je m'en occupe seule depuis sa naissance, elle voit bien qu'on est dans une relation de confiance, et je suis assez investie dans son développement. Et là, bah, le soir même, je parle à ma fille, elle se confie, et elle dénonce une pénétration digitale que lui aurait fait son père. Alors là, j'en ai vécu des choses avec son père, mais j'arrive pas à imaginer que c'est possible. Je suis dans le déni. Pendant un temps, je me dis, il a dû lui faire mal avec une lingette, on va trouver une explication. Après, j'ai quand même un petit peu peur parce que là, j'ai un espèce de flashback qui me remonte et je le revois sur les quelques fois où il était passé me voir quand elle était née et qui s'amusait à lui mettre la langue dans la bouche. Je lui demandais d'arrêter. Mais moi, je voyais un gamin immature qui sait pas, qui comprend pas, qui est bête. Et je me souviens de le materner, lui envoyer des articles de psychologie par SMS, lui dire ça c'est de l'inceste, je lui demande de ne plus lui faire. Et puis, il accepte et ça s'arrête là. Et moi, je pensais que ça s'était arrêté là. Bon, j'avais appris par ma fille qu'il l'embrassait sur la bouche. Après, il y a des parents qui font comme ça. Moi, c'est pas dans mes méthodes et voilà.
Alors, juste là-dessus, il y a débat, en effet. Alors, chez nous, pour te dire que je vais dans ton sens. Chez nous, par exemple, les seules personnes qui s'embrassent sur la bouche, ce sont les personnes qui sont romantiquement amoureuses. Donc, c'est papa-maman. Voilà. Nous, c'est la limite qu'on a mis. Je sais que dans d'autres familles, à commencer par la mienne, il y a d'autres pratiques qui incluent pas forcément d'inceste, mais on peut faire des choix différents. Donc c'est vrai que cette pratique-là, quand tu la vois, bah, ça veut pas forcément dire danger, tu vois.
Et c'est pour ça que je me suis pas plus insurgée pour les bisous sur la bouche. Après, la langue, c'était intolérable, donc je lui ai demandé d'arrêter avec la langue. Et moi, je suis pas pour le bisou sur la bouche, mais je vais pas crier au loup dès que quelqu'un fait ça. Et à ce moment-là, quand je te dis j'ai tout qui me tombe dessus au même moment, c'est concentré, c'est que la relation que j'avais depuis un an et demi, ce nouvel homme avec qui je vivais à présent, enfin la relation était superbe au début, bah, vu qu'on vit ensemble, ça y est, il commence à montrer son vrai visage, et il en vient aux mains au mois de janvier, le 2 janvier, il est très violent avec moi. Bon, il s'est évidemment confondu en excuses, etc., mais là je perds confiance parce qu'il m'a fait croire que son ex était folle, menteuse, manipulatrice et violente. Parce qu'il me dit, oui, il y a eu de la violence entre nous, mais c'est elle qui était violente. Et moi, il m'est arrivé de la pousser une fois, elle a tombé dans les escaliers, elle s'est cassée des os, mais c'est parce qu'elle était violente envers moi. Et là, bah, moi, je me souviens de cette nuit d'horreur où il m'a violentée. Là, j'étais défigurée. Il ne m'a pas tabassée, il n'y a pas eu de coup de poing. Mais moi, à chaque fois, je pèse 45 kilos, je suis avec un homme qui pèse le double. Qui m'attrape et qui me jette dans un meuble, qui ensuite m'attrape et me fait dévaler l'escalier. Et à la fin, je suis pleine de contusions, j'ai le front ouvert, enfin voilà. C'est comme des coups, mais il n'y a pas de coups directement portés. C'est ce qui lui permettra de dire d'ailleurs qu'il ne m'a pas tapé.
Et oui, qu'il ne t'a pas tapé, puis qu'il s'est défendu aussi. C'est qu'en te repoussant.
Non, il n'a pas réussi à le faire. D'accord. Là. Il n'a pas dit ça parce que je me souviens, dans les SMS ensuite, quand je lui ai reproché ce qu'il m'avait fait, je lui ai dit... Là, tu me disais que ton ex, c'est parce qu'elle était violente. Là, tu peux pas dire que c'est parce que j'étais vieux. Parce que lui, il essayait de me récupérer. Je lui ai dit, mais moi, j'ai pas mérité ça. J'ai pas une once de violence. Donc, comme il y a ça par SMS, il s'est pas mis à dire légitime défense parce qu'il reconnaissait que je n'avais pas une once de violence. Et du coup, il m'a dit que bah, c'est justement à cause de son ex qu'il avait plein de violence en lui et que c'était pas de chance, c'était tombé sur moi. C'était ça. Il était désolé.
Mais là, toi, t'as flairé le truc, quand même.
J'étais sous emprise, j'ai flairé le truc, et... Enfin, non, j'ai pas flairé le truc. J'ai eu des red flags que je voyais pour la première fois. Là, je les voyais, j'avais des doutes, mais je me disais, et s'il disait vrai? Et s'il était victime? Et s'il avait tellement souffert? Parce qu'il me racontait son niveau de souffrance et de douleur, et j'avais beaucoup d'empathie pour lui. Il pleurait devant moi. Donc je me disais, et si je me trompais, et si je le jugeais trop vite? Parce que quand je vois comme mon ex arrivait à inverser les choses auprès de l'entourage, etc., je lui accordais le bénéfice du doute, je croyais en ses promesses, et j'avais pas envie de gâcher tout ce qu'on avait, tous les projets qu'on avait, enfin voilà, on avait construit des choses. je voulais pas jeter l'éponge si vite, surtout que j'étais à ce moment-là fragilisée par ces violences, puis par les révélations de ma fille. J'étais dans un flou total. Mais ensuite, une fois que ma fille a révélé, j'en ai parlé à son père. Parce que je me dis, on va trouver une explication. Moi, je suis dans le déni. Je peux tout imaginer, sauf que son père fasse ça sur sa propre fille, en fait. Et lui, il me dit, bah, c'est ton... Je t'avais dit de le quitter. C'est ton compagnon. En plus, il y avait un truc... ma fille qui voyait la fille de mon ex-compagnon, elles ont 3 ans d'écart, donc c'était un modèle pour elle, la plus grande, etc. Elle l'appelait papa. Elle était tout bébé, elle se mettait à l'appeler papa. Donc je disais non, c'est pas ton papa, mais son prénom était difficile à prononcer. À la crèche, il me disait non, mais c'est normal, à cet âge-là, il y a du mimétisme. Et puis, quand les prénoms sont difficiles à prononcer, parfois on prend autre chose, elle va grandir, elle comprendra. Tant que moi, je l'appelle pas comme ça. Et du coup, comme elle a dénoncé papa, il pouvait y avoir confusion, même si elle a précisé le prénom. Mais bon, avec un enfant si jeune, on se pose plein de questions. Et si un tel lui a fait dire ça? Enfin, je sais pas, je pouvais tout imaginer. Et c'était nettement plus confortable pour moi de me dire que c'était pas le père de ma fille et que j'allais quitter ce nouveau compagnon violent avec moi et a fortiori avec ma fille, et que le cauchemar s'arrêtait là. Et comme je venais de perdre totale confiance en mon nouveau compagnon, à cause de la découverte, en fait, de me dire la violence conjuguée au fait qu'il m'avait fait croire que son ex était menteuse, etc. À ce moment-là, j'ai rappelé les personnes que le père de ma fille m'avait fait appeler pour m'ouvrir les yeux à l'époque, et je les avais pas crues. Et là, je les ai rappelés en me disant « Je crois que t'as raison, en fait. » Et on en a parlé, et j'ai découvert, j'ai sa petite sœur, qui est venu surtout me mettre en garde, qui m'a dit « Mon frère n'est pas celui que tu crois. »
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc là, quand c'est sa propre petite sœur qui m'explique que je suis sous emprise, et donc là, j'avais plus de doute que j'avais en face de moi un pervers, manipulateur et violent. Je le quittais, c'était sûr qu'il fallait que je le quitte. C'était difficile pour moi, coûteux, j'avais encore une forme d'emprise, je doutais, etc. Mais j'étais dans ce processus-là. Mais du coup, c'était super simple pour moi à ce moment-là de me convaincre que c'était lui. Donc, c'est ce qu'a fait le père de ma fille. En plus, bah moi, quand je suis face à ces révélations-là, j'appelle le 119, le numéro pour la protection de l'enfance, et on me donne rendez-vous aux UMJ. Mais c'est longtemps après, c'est plus de 3 semaines après. En attendant, ma fille continue d'aller voir son père, enfin, parce que moi, dans ma tête, c'était sûr, c'était le beau-père et pas le père.
Est-ce que tu portes plainte à ce moment-là par rapport à ton dernier ex?
J'ai déposé plainte pour les violences conjugales, chose que j'avais jamais faite contre le père de ma fille, et là, en fait, c'était marqué un stop, c'est plus possible, en fait, que ça recommence. Là, on a l'audience devant le juge. Et à ce moment-là, je me retrouve à quelques jours avant l'audience, perdre mon avocate. Je la récuse parce qu'elle a un comportement très inapproprié. Elle est très amie avec l'avocate du père de ma fille et elle est agressive envers moi. Donc, j'arrête son mandat et je demande un renvoi parce que je me retrouve 3 jours avant l'audience. J'ai toujours pas les conclusions adverses, ni les pièces. Je peux pas me préparer sans avocat. Et je me retrouve... la veille de l'audience, c'était le 8 mars 2022 l'audience, la veille je reçois les pièces adverses, je reçois 19 pièces, ou 24 pièces, une vingtaine en tout cas, et 4 autres le matin devant le bureau, je n'ai même pas le temps de lire, et toutes ces pièces sont tous les faux témoignages qu'il accumule depuis un an, où je suis un monstre.
Donc si j'ai bien suivi, il y a eu un premier renvoi de cette audience par le père, il y a un deuxième renvoi de ta part parce que tu as dû récuser ton avocate.
Oui, et que j'avais pas les pièces adverses.
Et t'avais pas les pièces adverses.
Surtout.
Et donc là, t'arrives le 8 mars avec les pièces la veille, certaines matin.
Et 3 ou 4 autres mises devant le bureau de la juge.
Ok, et t'as retrouvé une avocate entre-temps?
Non, j'ai pas eu le temps. Et puis, je m'étais entretenue avec la bâtonnière qui me disait « Non, mais impossible qu'on n'accepte pas votre renvoi, ils ont pas respecté le contradictoire. » Donc, c'était certain. Et j'ai oublié un élément prépondérant, l'élément déclencheur de tout ça, c'est quelques jours avant, le 1er mars, j'ai le rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance et avec la protection maternelle et infantile qui fait une évaluation suite au passage aux UMJ. Il n'y avait pas de lésion, mais ils ont fait quand même une information préoccupante pour se renseigner sur la situation. Et je suis face donc à une éducatrice et une infirmière qui m'ordonnent de déposer plainte contre le père. Et je leur dis, mais moi, je pense, j'ai des sérieuses raisons de penser que c'est le beau-père, surtout que le beau-père, quand je lui ai annoncé que j'étais passée aux UMJ, il m'a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Je ne l'avais pas encore quitté. Pourquoi t'as fait ça? Ça va me retomber dessus. Alors quand il a dit ça, chez moi, je me dis, ah, c'est sûr, c'est lui. Et je dis aux personnes en face de moi, mais je suis à peu près convaincue que c'est le beau-père et pas le père. Donc je ne vais pas déposer plainte contre le père. Et puis même si c'était le père, je ne peux pas déposer plainte contre lui directement. Déjà, je n'ai pas les preuves, je vais faire contre X, il y a une enquête qui va être faite. Et puis moi, je vais me soumettre à des représailles. Je n'ai jamais déposé plainte de ma vie contre lui. C'est pas au moment critique que je vais prendre des risques, alors je peux faire contre X. Et ils me disent, madame, si vous n'êtes pas en mesure de protéger votre fille, on saisira la juge des enfants et elle le fera à votre place. Donc là, je me retrouve un petit peu menacée de placement. Donc je m'exécute. Le lendemain matin, je vais déposer plainte. Et quand je leur dis, je dis à l'éducatrice, mais moi, je pense pas que c'est le père, je pense que c'est le beau-père. Elle me dit, bah, vous faites contre les deux, pas contre X. Donc je me retrouve à déposer une plainte complètement incohérente contre deux personnes à la fois. Ce qui fera que bah, les deux personnes qui avant se détestaient et faisaient tout pour me garder auprès de chacun d'eux et se diviser entre eux, bah, là, ils se sont alliés, ils sont devenus amis et ils ont témoigné l'un pour l'autre. Et moi, je suis faite du coup passer pour folle, violente, inapte par le père de ma fille. Et je me retrouve à l'audience, sans avocat, sans avoir lu toutes les pièces adverses, sans m'attendre à tout ce qui va m'arriver. Et comme en fait il y a des suspicions d'inceste et qu'il y a une plainte qui concerne aussi le père de ma fille, bah le père de ma fille se met à dire que je suis très dangereuse. Il demande la garde exclusive à ce que je puisse voir ma fille en lieu médiatisé et à ce que je sois soumise à une expertise psychiatrique réalisée par le docteur Paul Bensoussan, donc celui qui est reconnu en France comme le pro de l'aliénation parentale. Et je ne le savais pas, je ne savais pas qui c'était. En fait, lui, il savait où il mettait les pieds, moi, je tombais des nues. En fait, je découvrais tout cet univers-là à ce moment-là.
Alors, petit aparté sur le sujet hein, du SAP, le syndrome d'aliénation parentale, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a aucun fondement scientifique observable et observé. C'est une création à la base, je crois, d'un psychiatre allemand, si je ne me trompe pas.
Américain Richard Gardner.
Voilà, américain Richard Gardner, et qui n'a aucun fondement, si ce n'est de faire passer des mères pour folles et d'être utilisées à des fins de violence. Néanmoins, pourquoi les situations de violence où on utilise les enfants contre un autre parent existent? On appelle ça des violences vicariantes. Et pourquoi est-ce que les masculinistes s'emparent du SAP, donc du syndrome d'aliénation parentale, et pas du terme violence vicariante? Ben, tout simplement parce que les violences vicariantes, comme vous l'avez pu d'ailleurs l'entendre dans ce récit, elles sont principalement commises par les hommes envers les femmes. Et donc, si on commence à vouloir nommer correctement les choses, ben, c'est pas à l'égard des hommes, alors que le SAP, c'est strictement et unilatéralement des femmes envers les hommes. Mais ça n'existe pas, encore une fois. Voilà, je ferai sûrement un épisode sur le sujet. Je te laisse reprendre.
Donc, je me fais accuser de tout un tas de choses, d'être manipulatrice, dangereuse pour mon enfant, violente. Il clame une tentative d'homicide et demande à ce que je ne la voie plus que sous surveillance. Donc, moi, je tombe des nues à ce moment-là. Donc là, moi, je sors de là en me disant je vais perdre ma fille. J'appelle des avocats, je me renseigne. On m'informe du fait que j'ai la possibilité de rédiger une note en délibéré, donner des informations et des pièces à la juge après l'audience. Mais il faut, pour ce faire, y avoir été autorisé pendant l'audience. Sauf que je n'ai pas été autorisé à quoi que ce soit pendant l'audience puisque je n'ai pas eu le droit de parler. On m'a posé quelques questions, ensuite je devais me taire. Et puis c'est l'avocate adverse qui a longuement plaidé la folie, l'hystérie, la vengeance maternelle. Et je fais tout de même, j'explique tout l'historique, pourquoi on en est là. Je me souviens avoir travaillé jour et nuit pendant 5 jours, nuit et jour là-dessus. Et j'avais produit 90 pièces. J'envoie tout à la juge. Alors ça a été refusé parce que j'avais pas demandé à soumettre cette note pendant l'audience, mais heureusement que je l'ai envoyée parce que moi, à l'audience, je m'étais présentée sans mes pièces, puisque on m'avait dit que c'était évident qu'il n'y aurait pas d'audience, ça serait renvoyé. Mais comme finalement, ça m'a été refusé, le renvoi, qu'il y a eu l'audience, j'avais pas mes pièces avec moi, l'avocate adverse a dit « mais il n'y a pas de souci, je fournis les pièces de madame ». Et elle a fourni quelques pièces, mais pas toutes les pièces qu'elle avait. Donc elle a écarté les pièces qui intéressaient à être écartées. Les pièces où qui parlaient de sa violence et de l'emprise sur moi, des choses comme ça, elles ne sont pas apparues dans le dossier. Et donc heureusement que j'ai envoyé cette note en délibéré, parce que la juge a au moins récupéré les pièces qui étaient annoncées dans le bordereau initial de mon avocate. J'avais 20 pièces, donc elle n'a pas pu prendre les 90 pièces, mais au moins les quelques pièces qui n'avaient pas été présentées par l'avocate adverse, elle a pu les prendre, et ce qui m'a permis de ne pas perdre la garde. Parce que, ok, le père de ma fille et mon ex-compagnon disent que je suis une mère dangereuse, etc. Mais sinon, tout le reste du monde reconnaît mes qualités maternelles. Je crois pas que... J'avais pas encore de témoignage de la crèche à ce moment-là. La crèche ensuite a expliqué comment ça se passait. Bon, le père de ma fille ne le voyait pas, il s'en occupait pas. Ils l'ont vu quelques fois dans l'année. Mais malgré les révélations d'inceste de ma fille, le père obtient une garde classique. La juge me dit qu'elle n'est pas juge pénale, que les révélations d'inceste ne la concernent pas, qu'on est au civil et que du coup on écarte ce sujet. Et je me retrouve contrainte à remettre ma fille à son père le week-end qui suit, donc le 11 mars. Comme je l'avais fait sauter un week-end le week-end précédent, comme l'aide sociale en France m'avait dit, vous déposez plainte contre les deux et vous donnez pas votre fille à son père, j'ai fait sauter un week-end et donc il fallait qu'il le rattrape, donc il l'a eu deux week-ends consécutifs.
Il y a juste un truc qui m'interpelle, et pas toi, hein, mais c'est juste que je trouve ça fou, c'est qu'il y a une procédure qui est en cours avec l'aide sociale à l'enfance. Il y a une plainte qui est déposée, il y a deux plaintes qui sont déposées, c'est quand même quelque chose de très officiel tout ça. Et la juge, même si c'est du civil, je comprends la différence civil-pénal, mais la juge te dit qu'elle n'a pas à en tenir compte. C'est juste... Enfin, tu vois, là, par rapport au système judiciaire français, je me dis, c'est juste incroyable, quoi. Bon, bref, pardon, je te laisse reprendre.
Oh, j'ai oublié un élément important aussi, juste avant l'audience. En fait, donc le 1er mars, il y a le rendez-vous. Le 2 mars, le lendemain matin, je dépose la plainte. Et le vendredi 4 mars, j'annonce au père que le lendemain, je ne lui remettrai pas notre fille, parce qu'il avait normalement le samedi en journée et le dimanche en journée. Il n'y avait plus les nuitées encore à ce moment-là. Ah non, j'avais réinstauré une nuitée, celle du samedi soir, pour plus qu'il la prenne de force, parce que ça l'a perturbé trop. Donc au moins, il avait une nuitée, celle du samedi soir, donc il l'a récupérée le samedi matin. Et je l'informe que le lendemain, il ne l'aurait pas, que j'ai dû déposer plainte, mais que c'est la maison du département qui m'a invité à le faire, et qu'il va y avoir une enquête, et que c'est juste le temps de l'enquête que je ne l'incrimine pas. Moi, à ce moment-là, je ne pensais pas que c'était lui. J'ai commencé à y repenser ensuite, quand il s'est mis à m'accuser, parce que... Ce qui m'a inquiétée, c'est qu'il ne s'inquiète pas du tout pour notre fille. Il n'a pas appelé la crèche, il n'a rien cherché à savoir.
Mais depuis le début, c'est-à-dire que la première fois que tu lui en parles, il te dit « c'est ton mec, tu vois ». Tu vois, mais c'est ça, il n'y a pas de « mon Dieu, mais comment elle va, j'arrive ». Donc en fait, depuis le début, je veux dire, le bien-être de son enfant ne le questionne pas depuis le début.
Mais moi, au début, je me suis dit « bon, il va réaliser que c'est grave et il va se bouger un moment ». Mais jusqu'au bout. Les révélations datent du mois de janvier, on est au mois de mars. On est le 4 mars, je lui annonce par SMS. Là, il vrit totalement. Il m'accuse d'être folle. Il dit qu'il faut que j'aille me faire soigner. Et puis, peu de temps après, je reçois un appel de la crèche qui me demande si c'est normal que je ne les ai pas informés du fait que le père de notre fille allait la chercher tout de suite. Parce que, alors, déjà, il n'allait jamais la chercher à la crèche. Et quand exceptionnellement il le faisait, j'informais la crèche. Et là, ça les a questionnés, le fait que déjà les révélations que ma fille a faites, plus le fait qu'elle ne soit pas avertie. Apparemment, le père était en route pour aller les chercher en plein milieu de la journée.
On peut souligner quand même les très bonnes réactions du personnel de crèche depuis le début. Oui. Non, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est pas toujours évident dans leur cas.
Ouais, elles ont été exceptionnelles déjà de faire attention à ces symptômes, parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu se dire...
C'est un caprice.
Voilà.
Mais non, mais c'est vrai.
Et là, ils ont eu peur pour elle, en fait. Quand je dis elle, c'est ma fille. Ils ont eu peur pour ma fille. Et je me précipite et je vais la récupérer. Et je découvre dans les pièces qui sont remises 4 jours après, le lundi, une main courante dans laquelle il dit que, comme tous les vendredis, il allait chercher sa fille à l'école.
À la crèche.
Lui dit l'école.
Sérieux?
Il
est même pas au courant.
Il n'est pas habitué encore. Il y a écrit l'école dans... Dans les mails aussi, hein, il parle de l'école de sa fille.
D'accord.
Et puis il dit comme un vendredi sur deux, comme ce qui est convenu. Alors que dans l'année, il y allait deux mercredis, et puis il y était allé un vendredi avant, sur toute une année. À la crèche, ils l'ont vu maximum 5 fois, pas plus. Et sinon, il a jamais appelé la crèche pour quoi que ce soit, ils n'avaient aucun lien. Il se plaint, il dit que j'ai enlevé sa fille, qui devait aller la chercher comme tous les vendredis, alors qu'il n'y avait aucun accord pour qu'il vienne la chercher le vendredi. C'était le samedi matin qu'il l'a récupérée. Nos SMS démontrent que le samedi matin, il la récupère. Donc ça, je peux le démontrer, mais ça prend du temps avant d'être reconnu. Et donc, il m'accuse d'avoir enlevé sa fille. Et au même moment, il a demandé en fait à la crèche un rapport, une attestation sur le fait qu'ils avaient vu une griffure sur la fesse de ma fille au mois de janvier. Donc pareil, il s'inquiète de la griffure sur la fesse de ma fille 2 mois plus tard. Et là, il dit à la crèche, mais c'est quoi ces histoires de révélations, de violences sexuelles, etc., le jour de la plainte. Donc par SMS, je lui dis que oui, j'ai récupéré notre fille, qu'elle est en sécurité avec moi, qu'on est à domicile, qu'on va faire des jeux, des gâteaux. Je lui explique le programme, il me traite de folle, etc. Fin de la conversation, il ne me contacte plus du tout du week-end. Le dimanche, je suis appelée par la police, je dois me rendre au commissariat avec ma fille. Et là, j'apprends que je suis recherchée. Mais en fait, ils m'ont eu très facilement. Ils m'ont dit, en fait, on essayait de vous géolocaliser à l'étranger. Le père avait fait un scandale en disant, mais attention, elle va peut-être tuer ma fille. Elle est partie loin. Enfin, il est parti très loin dans ses accusations. Il a dit, elle est complètement folle. Elle va voir des psychologues. Elle a un ex qu'elle accuse de violence. À ce moment-là, il voulait me faire passer pour la menteuse qui accusait tous les hommes de violence à tort. Heureusement, aujourd'hui, il ne peut plus sortir cette carte-là parce que mon ex-compagnon a été condamné pour ces violences. Mais au début, ça lui servait. Il disait, vous voyez, elle accuse tout le monde de violence.
Et là, du coup, on est la veille de l'audience, alors, le dimanche.
On est l'avant-veille de l'audience. L'audience, c'était le mardi 8. Et on est le dimanche 6 mars. Je me présente au commissariat et les policiers tombent des nues. Ils m'ont dit, on attendait à avoir une folle, en fait. Vous avez été décrite vraiment comme une folle, pas une petite folle, une grande folle incohérente. Et je suis avec ma fille, il voit de la tendresse, il voit de la stabilité entre nous. Et il me dit, mais pourquoi vous n'avez donné aucun signe de vie à monsieur? Il était mort d'inquiétude, il croyait que vous alliez vous tuer. Je lui dis, si, je lui ai répondu, en fait. Il n'a pas essayé de me rappeler depuis vendredi. Il me dit, vous avez échangé vendredi avec lui? Bah oui, je monte les SMS. Et il me dit, il s'est bien fichu de nous. Hein. Même, il m'a écrit un message pendant qu'il déposait plainte. Ils m'ont dit, mais ce message-là, c'était ce matin? Bah oui, il regarde les heures, il dit, mais il se moque de nous. Il aurait pu nous dire que vous répondiez. Parce qu'il me dit, t'es où? Je lui dis, on fait ça. Enfin, je sais plus ce que je réponds.
Et ça, c'est pas condamnable, ça? C'est pas un faux?
Bah si.
Ah, d'accord. Si.
C'est condamnable. Mais je sais pas s'il sera condamné, mais c'est condamnable. C'est grave.
Bah oui, c'est grave.
Je le démontre hein, dans les pièces, j'ai les SMS, etc. Tout est démontré, mais pendant longtemps, on a continué de croire qu'il y avait un conflit, au lieu de voir qu'il y avait de la violence. Parce que comme il y a des accusations réciproques, on dit que c'est un conflit.
Je renvoie à la définition du conflit, que je mettrai peut-être le lien vers la vidéo qui l'explique, qui est tirée de la formation de nous toutes. Hein. C'est qu'un conflit, c'est quand les deux parties s'opposent, mais à un niveau de violence égal, on va dire ça. Donc un conflit peut être violent, mais n'est pas forcément une violence. Sauf que quand ça va principalement ou très majoritairement dans un seul sens, c'est de la violence. Juste pour l'auditoire.
Nous allons nous arrêter ici dans le récit de Pauline afin que chacun, chacune puisse faire une pause, prendre le temps de digérer tout ce qui a déjà été dit, et on se retrouve pour la suite très prochainement.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.